La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée au 23e rendez-vous de l'histoire de Blois, au Café Fluxus de la Fondation du Doute, où RFI aime installer chaque année ses micros et son studio. Merci à toutes les équipes du festival de nous avoir accueillis et bravo pour avoir réussi à maintenir ce sacro-saint rendez-vous de tous les passionnés d'histoire, d'ici et d'ailleurs. Les dédicaces, les tables rondes, les projections, les conférences, tout a été maintenu pour le public masqué et respectueux des gestes barrières. Pandémie de Covid oblige. Un public hyper heureux de pouvoir se retrouver dans un festival qui a choisi pour thème cette année « Gouverner ». Ce que gouverner veut dire, c'est toute la question pour les jeunes nations africaines au moment des indépendances, dans ces années 60 où leurs nouvelles voix font leur entrée dans le concert des nations.
Nous affirmons ici que la vague d'indépendance qui déferle sur l'Afrique est irrésistible.
Mamadou Ave, délégué de la République du Mali.
Il serait dangereux pour la paix du monde si les anciennes métropoles qui ont régné sur l'Afrique conservaient le secret espoir d'un droit de préemption sur nos jeunes États en fomentant des complots contre leur souveraineté. Le grand espoir de l'humanité, c'est qu'à cette tribune disparaissent tous les complexes entre grands et petits. Notre peuple préfère la privation matérielle à l'aliénation de sa dignité. Nous en avons connu d'autres au cours de 80 ans de colonisation.
Formidable archive radiophonique, extraite de la radio de l'ONU. Un écho sonore aux déclarations des toutes nouvelles nations africaines. Et c'est une petite avant-première ici à Blois du projet mené par la cinéaste Mila Tourajlik. Bonjour Mila.
Bonjour.
Et bienvenue dans la marche du monde.
Merci.
Comment on dit marche du monde en serbe?
Je pense que c'est napredak sveta.
Alors bienvenue également à Karine Ramondi, historienne de l'Afrique et auteure du livre Leader assassiné aux éditions de l'Harmattan. Bonjour Karine.
Bonjour Valérie.
Alors vous allez toutes les deux évoquer pour nos auditeurs et pour nos spectateurs ici à Blois la question du regard porté par le caméraman de Tito sur l'effervescence de ces années 60 où il s'agit d'inventer au fond une façon de reprendre possession de sa propre souveraineté pour les jeunes nations africaines après plus d'un siècle de colonisation pour certains pays. Karine Ramondi, qu'est-ce que ça représente au fond cette assemblée de l'ONU pour les leaders africains? Comment faut-il imaginer l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent?
Pour les leaders africains, au tournant des indépendances, et même ça avait déjà commencé dans les années 50, c'est une tribune exceptionnelle. C'est quelque chose qu'ils ont tout de suite envisagé comme une possibilité médiatique, politique, diplomatique, d'importance. Et certains ont très tôt manifesté leur envie de se rendre à l'ONU pour évoquer les problèmes qui se tenaient entre les métropoles qui ne voulaient pas lâcher leurs colonies ou alors les métropoles qui avaient hérité de territoires sous tutelle. Et véritablement, cette Assemblée générale de l'ONU, puisque c'est vraiment l'institution qui est la plus médiatisée, représente pour ses leaders une opportunité de faire entendre la voix de ceux qui sont restés sans voix, c'est-à-dire les peuples colonisés. Et il y a une véritable foi en l'ONU, un espoir onusien, comme je l'évoque dans mon ouvrage, un espoir onusien très très fort. Il faut absolument que ces leaders viennent s'exprimer et se montrer pour exister. Et cela va d'ailleurs asseoir considérablement leur légitimité dans le pays pour lequel ils se battent. Ces allers-retours entre l'ONU et les pays concernés va favoriser à chaque fois leur popularité. Donc ils ont compris que c'est un véritable atout et ils vont s'en servir très tôt, évidemment, au-delà des indépendances et de l'année 1960.
Alors cette année 1960, où ces nouvelles voix viennent s'exprimer à l'ONU, ce sont aussi des années de médiatisation pour ces leaders africains, Mila Tourajlik. Et il y a un caméraman qui va suivre toute cette effervescence, et pas seulement à New York, mais aussi un peu partout sur le continent, et pendant des années, c'est le caméraman de Tito. Alors pourquoi Tito ? On voit son caméraman systématiquement quand il se passe un truc du côté des nationalismes africains.
Donc juste pour dire que ça se situe dans un contexte très particulier, ce qui est que la Yougoslavie, malgré le fait que c'est un pays socialiste, n'appartenait pas vraiment au bloc soviétique. En fait, elle était éjectée du bloc de l'Est par Staline en 1948. Et à partir de ce moment-là, le dirigeant de la Yougoslavie, Tito, il est obligé de trouver de nouveaux alliés, si vous voulez. Et il s'est mis à voyager beaucoup en Asie et en Afrique. Et c'est pendant ces voyages qu'il assiste à la naissance d'un nouveau projet politique qui est en fait que tous ces pays se mettent unis ensemble autour de cette idée de prendre la parole à une échelle mondiale. Et du coup, comme quelqu'un qui est très habitué à l'usage de l'image dans sa propre propagande, il fournit comme aide en fait yougoslave à ce pays, donc dans l'idée de le soutenir, de tracer un chemin indépendant de deux grands blocs, comme la Yougoslavie a fait pendant les années 50, il leur fournit l'aide technique, mais surtout aussi l'aide de l'image en envoyant son caméraman pour filmer. Pourquoi il fait ça ? Parce que Tito, comme quelqu'un qui a un peu créé le récit de la Yougoslavie, est très consciente du fait que pour construire une identité nationale pour un nouveau pays, en fait, c'est essentiel de pouvoir se mettre en récit. Et comment on fait ça ? En se filmant, en se racontant dans le cinéma et en projetant ses films à la population locale, évidemment, mais aussi à l'international.
De nombreux ingrédients hein, pour pouvoir mettre en scène ces leaders africains. Et nous sommes également demandé quelle était la part des religieux dans cette mise en scène du pouvoir au moment des indépendances. Pour faire écho à la conférence inaugurale de Souleymane Bachir Diagne, je vous rappelle qu'il est né Souleymane en 55 à Saint-Louis du Sénégal. Il a été formé à l'École normale supérieure à Paris, notamment par Louis Althusser et Jacques Derrida. Il dirige aujourd'hui l'Institut d'études africaines de l'Université de Columbia à New York, où il est prof dans le département de français et de philo. Souleymane Bachir Diagne est l'auteur de la conférence inaugurale ici à Blois, où il propose son analyse de philosophe et d'historien du concept de califat. Dans l'impossibilité d'être parmi nous à cause de la pandémie de Covid, nous avons tenu à lui donner la parole en l'enregistrant par téléphone. Souleymane Bachir Diagne, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous au rendez-vous de l'histoire de Blois sur RFI. Souleymane Bachir Diagne, vous posez donc la question de la relation entre l'islam et la politique dans les formes modernes de gouvernance. Ce qui nous amène à évoquer cette année magique, cette année 1960, année où 16 pays africains fraîchement indépendants entrent à l'ONU en tant que jeune nation indépendante. Et d'ailleurs, quel souvenir personnel en gardez-vous ?
Mais écoutez, cette année 1960, je n'ai pas de souvenir puisque j'avais 5 ans. Je fais partie de la génération de ceux qui sont nés et ont grandi en étant dans l'État souverain du Sénégal. Le plus vieux souvenir que je puisse avoir de l'indépendance, c'est en culotte courte, tout petit enfant, agitant le drapeau sénégalais. C'était à Ziguinchor où mes parents vivaient à ce moment-là. Et donc, voilà, j'ai de vagues souvenirs, de vagues images de cela. Mais évidemment, c'était un événement absolument important. L'accession à la souveraineté internationale est un moment important dans la vie d'une nation, puisque mettre fin à la colonisation, mettre fin à cette situation quand même inacceptable, de ne pas être souverain, de ne pas avoir le droit de conduire sa propre destinée, c'était quelque chose de très important. Arriver aux Nations Unies, faire son entrée aux Nations Unies également, donc avoir une voix qui compte, quel que soit son poids, une voix qui compte dans le concert des nations, comme on appelle cela, était quelque chose d'important.
Nous affirmons ici que la vague d'indépendance qui déferle sur l'Afrique est irrésistible.
C'est Mamadou Dia, président du Conseil du Sénégal, qui annonce l'indépendance de son pays à la radio nationale.
Il serait dangereux pour la paix du monde si les anciennes métropoles qui ont régné sur l'Afrique conservaient le secret espoir d'un droit de préemption sur nos jeunes États en fomentant des complots contre leur souveraineté. Le grand espoir de l'humanité c'est qu'à cette tribune disparaissent tous les complexes entre grands et petits. Notre peuple préfère la privation matérielle à l'aliénation de sa dignité. Nous en avons connu d'autres au cours de 80 ans de colonisation.
Voilà des nations qui deviennent des nations souveraines et qui vont précisément construire le système de gouvernement, les institutions politiques qui leur correspondent. Le Sénégal, qui accède à la souveraineté internationale en 1960, comme vous l'avez rappelé, se donne les moyens de construire les institutions qui lui correspondent. C'est un pays musulman, si on prend l'immense majorité démographique du Sénégal, mais qui a à sa tête un président catholique et qui se donne des institutions laïques en définissant son propre modèle de laïcité. Voilà un point qui illustre un petit peu de la nécessité pour les sociétés musulmanes d'inventer des sociétés modernes dans lesquelles elles comptent vivre.
Souleymane Bachir Diagne, bien sûr, l'indépendance vous est particulièrement chère au cœur en ce qui concerne notre pays, le Sénégal, mais c'est aussi l'indépendance du Mali, c'est aussi l'indépendance de la Guinée, c'est aussi l'indépendance de 16 pays africains qui entrent d'ailleurs à l'ONU. À l'époque, comment pourriez-vous nous décrire la place des responsables religieux, quelle place ils occupent à l'époque dans l'espace politique, sachant que dans les années 50 et 60, il y a peut-être moins de mosquées dans le paysage des capitales de ces jeunes nations africaines et un peu plus d'églises.
Oui, oui, oui. Alors, il faut dire que le chemin qui a conduit vers l'indépendance, c'était évidemment un chemin où les ismes qui étaient mis en avant ne concernaient absolument pas l'islamisme dont on parle tant aujourd'hui. Le nationalisme, les maîtres mots à l'époque, c'était le nationalisme, évidemment, ce qui est normal. C'était également le socialisme. Rappelons que beaucoup de ces pays se réclamaient du socialisme dit africain, donc une adhésion au socialisme, mais un socialisme qui corresponde à ce qui était la réalité culturelle, socio-économique des nations africaines. Et quand vous avez énuméré d'ailleurs les différents pays qui sont allés à l'indépendance, j'allais presque dire hélas, pour la raison suivante, c'est que une des revendications aussi qui avait été celle d'un certain nombre de leaders politiques dans le monde anglophone, Kwame Nkrumah, dans le monde francophone, Léopold Sédar Senghor, c'était de préserver à tout prix une unité africaine pour l'indépendance de ces jeunes nations. Senghor s'était battu contre ce qu'il a appelé la balkanisation, c'est-à-dire les indépendances séparées du Mali, de la Guinée, du Sénégal, etc., pour essayer de conserver quelque chose de la Fédération de l'Afrique occidentale française qui avait été créée par l'administration coloniale. Donc voilà les grandes questions qui étaient agitées à l'époque et la religion était évidemment à l'arrière-plan, sauf quand il s'agissait de décréter que les pays étaient des pays laïcs où la séparation de la religion et de la politique était un fait admis par tous.
Vous voulez dire, Souleymane Bachir Diagne, que si l'on revient sur les mots en « isme », c'était plus le panafricanisme que l'islamisme politique qui était de mise dans ces années 60. Si on veut, par exemple, comparer avec le Mali d'aujourd'hui ou encore le Sénégal avec l'importance croissante de la ville de Touba ou encore le Nigeria avec les dérives de la secte islamiste Boko Haram.
Oui, oui, tout à fait. La religion avait son importance, il ne faut pas la nier du tout. D'ailleurs, d'une certaine façon, on peut dire que, si je prends l'exemple du Sénégal, encore une fois, l'ascension politique de quelqu'un comme Senghor doit quelque chose au poids de l'islam dans le pays. Senghor, on le sait, a battu Lamine Gueye politiquement, qui avait pourtant été son mentor, celui qui l'avait amené en politique, et les leaders religieux ont soutenu Senghor. Il a fait alliance avec eux, si vous voulez, pour construire sa carrière politique contre Lamine Gueye d'abord, et puis ensuite comme président du Sénégal. C'est vous dire que la sociologie de l'Ouest africain, qui est une sociologie où la démographie était musulmane pour l'essentiel, ceci a joué un rôle. Mais ce qui n'était pas mis en avant, c'était un programme politique qui serait, si vous voulez, un programme fondé sur la religion. On peut dire que la laïcité était un fait. Les politiciens pouvaient avoir le soutien de guides religieux, mais la religion n'était pas mise en avant pour le rôle politique qui devait être le sien. Alors, les choses se sont transformées, évidemment, au fil des années, et aujourd'hui, évidemment, la religion a un poids et une place différentes dans l'espace public.
Alors si l'on revient justement à ces années 60, où ces jeunes nations africaines entrent à l'ONU, où ces jeunes nations africaines expérimentent des modèles de gouvernance, plusieurs d'entre elles choisissent le socialisme et le baptisent le socialisme africain. Hein. C'est le cas au Mali, c'est le cas au Sénégal, c'est le cas en Guinée. De quoi parle-t-on à l'époque lorsqu'on parle de socialisme africain? Quel est le modèle? Quels sont les grands frères qui soutiennent ces projets gouvernementaux?
Alors justement, c'était une manière de ne pas se donner des grands frères, précisément. L'idée d'un socialisme africain, c'était l'idée qu'il fallait que les Africains inventent leur propre modèle, leur propre voie vers le socialisme. L'expression qui avait été utilisée d'ailleurs, si bien par Senghor que par Julius Nyerere en Tanzanie, c'était les voies africaines du socialisme.
Écoutez la voix de Julius Nyerere.
When I was at school, I was taught what was called history. The textbooks that we used in that something that was called history were written in certain quarters of the world. And this history consisted largely of the glorification of the humiliation of one people by another.
À l'école, j'ai appris l'histoire, mais les livres que nous utilisions avaient été écrits par une partie du monde. Et cette histoire glorifiait l'humiliation d'un peuple par un autre. À un âge très jeune, on nous apprenait donc à accepter l'humiliation de l'Afrique et le pouvoir de l'Europe qui occupait l'Afrique. Cette conférence est aujourd'hui le symbole de la liberté et de l'indépendance du peuple africain.
L'idée était qu'il n'y avait pas un modèle à suivre, que personne n'allait se donner, par exemple, le modèle soviétique ou se donner le modèle chinois, quoique il y ait eu à l'époque une admiration certaine pour le modèle chinois, précisément parce que ça avait été une manière chinoise, si vous voulez, de se donner le socialisme. De la même manière, d'ailleurs, il faut se le rappeler, ça a changé depuis, mais il y avait une grande admiration également pour la jeune nation israélienne, qui est une nation du kibbutz, le modèle du kibbutz, le modèle du socialisme mis en place par Israël à l'époque, était un modèle que Senghor a salué. Donc ça, c'est pour la question des modèles. Maintenant, il y avait une philosophie précise du socialisme africain qui pouvait tenir sur deux piliers, si vous voulez, deux piliers de ce socialisme africain. Un premier pilier qui consistait à dire que le socialisme, au sens de la coopérative, au sens de la propriété commune de la terre, de la propriété commune des biens de production de manière générale, correspondait à ce qu'était la culture, les cultures africaines traditionnelles. Il y avait donc, dans la notion de socialisme africain, l'idée d'une continuité entre un certain communalisme traditionnel des cultures africaines et les exigences modernes d'une propriété collective des biens de production. Il y avait un deuxième aspect également philosophique très important que l'on trouve aussi bien chez Julius Nyerere que chez Senghor, qui était une réflexion sur le marxisme lui-même. L'idée que le capitalisme aliène l'humain en séparant l'humain de son produit, de son travail, en séparant les humains les uns des autres, etc. Donc, une source philosophique dans le marxisme et une source historique, si je puis dire, dans les cultures africaines. Voilà ce qu'étaient les deux grandes sources, les deux grands fondements de ce qui s'est appelé le socialisme africain. Maintenant, il s'agissait aussi de le mettre en œuvre, de mettre en œuvre les coopératives, de mettre en œuvre les différentes institutions de développement qui ont été inventées à cette époque-là. Et ça, c'est une autre histoire. C'est la mise en œuvre, si vous voulez, la mise en pratique du socialisme africain. Ça va se continuer entre les années 60 et les années 80.
Avec de grandes difficultés entre les lobbies coloniaux, les intérêts économiques des puissances étrangères, la lutte internationale contre le communisme, puisqu'on est en pleine guerre froide. Ce modèle expérimental du socialisme africain a été mené peut-être, on va dire grosso modo, les 10 premières années, mais c'est vrai qu'il s'est heurté à des réalités qui dépassaient l'expérimentation dans chaque pays.
Tout à fait, et donc Les coopératives qui avaient été mises en place se sont cassées la figure les unes après les autres. Les grandes institutions, le fait que la propriété nationale, les banques nationales, tout ce qui portait le nom de national a également été très fortement chahuté pendant ces années-là. On peut dire que le coup de grâce a été apporté par les programmes d'ajustement structurel. Là, il s'agissait pour le modèle du capitalisme, du marché, du tout marché, si vous voulez, de mettre au pas les pays africains. Je me souviens d'ailleurs avoir traduit à une époque de l'anglais au français les textes de Julius Nyerere, dans lesquels il se battait contre les exigences du Fonds monétaire international, qui avait un programme simplement de démantèlement de toutes les institutions qui avaient été mises en place dans la philosophie du socialisme africain de Julius Nyerere.
Souleymane Bachir Diagne, je rappelle que vous êtes professeur à Columbia University aux États-Unis. Avant de se quitter, j'aimerais votre réaction en tant que philosophe, savoir ce que vous inspire le titre du magazine américain Life en 1960, lorsqu'il titre au sujet de l'entrée des jeunes nations africaines à l'ONU, 1960, le plus grand show de la planète. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Écoutez, alors on essaie de deviner ce qui avait été mis sous le nom de show. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu méprisant dans l'idée de show. Évidemment, on met l'accent en parlant de show sur le côté un peu exotique de tous ces pays qui n'avaient pas été conviés jusqu'alors au grand banquet des nations. On se retrouvait entre soi, entre Européens, Américains, pays du Nord, avec quelques pays déjà indépendants. Évidemment, 1960, c'est un bouleversement total de l'ordre du monde. Les nations africaines et asiatiques arrivent en masse à l'ONU. On peut appeler ça un show si l'on veut, mais c'était quand même un bouleversement total de l'ordre du monde et nous sommes toujours dans la dynamique qui a été à ce moment-là instaurée. Nous sommes entrés dans une ère où le monde n'était plus centré sur l'Europe et l'Amérique du Nord. C'était ça la signification de 1960. C'était ça la signification de cette arrivée des différentes nations avec effectivement leurs couleurs qui ont, c'est peut-être ces couleurs-là qui ont fait parler de show, mais au-delà de ce terme un peu méprisant de show, l'histoire retient et l'histoire retiendra de plus en plus que ce fut un grand moment de basculement, le moment où la scène de l'histoire n'a pas été seulement la scène européenne et ou nord-américaine, mais où l'histoire est devenue véritablement universelle.
Un grand merci, Souleymane Bachir Diagne, pour cette conversation. Depuis New York, avec Blois, les rendez-vous de l'histoire. Et nous allons poursuivre cette conversation avec nos invités, réalisatrices et historiennes. Merci à vous.
Merci encore. Au revoir.
Quel regard est porté par les médias sur l'entrée des nations africaines à l'ONU le fameux 20 septembre 1960, Mila Turajlik, puisque vous avez justement repris ce titre du magazine Life, le plus grand show de la planète. Comment ces nouveaux arrivants sont-ils montrés ?
Moi d'abord, je me suis penchée, comme vous avez évoqué, dans le cadre de ce travail que je fais sur le caméraman du président yougoslave, sur ce matériel inédit et surtout toutes les bobines non montées de matériel qu'il a filmé à New York. Et là, je l'aperçois vraiment une expression de cette solidarité qui était évoquée tout à l'heure au niveau de soutien qui est donné par les pays, si vous voulez, socialistes, mais là, dans le cadre de la Yougoslavie, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, aux pays africains. Et donc, dans ce regard, on voit vraiment cet apport de solidarité, d'animage et surtout l'espace d'une prise de parole. C'est pour rendre l'événement concret, à mon avis, dans la perception du grand public. En fait, c'est vraiment quelque chose de voir déjà les corps de ces hommes, de les voir dans l'espace de la salle de l'Assemblée nationale, de le voir prendre la parole, c'est quelque chose qui fixe vraiment l'événement dans la perception du public. Et je pense que c'était symboliquement une occasion de leur donner la scène, si vous voulez.
Karine Ramondi, c'est vrai que ces images d'archives, on va d'ailleurs en entendre des extraits sonores, sont absolument fascinantes. Vous les regardez, vous, pour mieux les décrypter, puisque vous êtes historienne de l'Afrique des indépendances. Alors, du point de vue de l'histoire, justement, qu'est-ce que symbolise cette entrée de toutes ces nouvelles délégations africaines à l'ONU, puisque l'on passe de 55 pays représentés en 1955 à 99 membres en 1960?
C'est vrai que l'ONU de 1945 à 1960 était surtout concentrée sur les problèmes de la gestion immédiate de l'après-guerre et puis ensuite de la gestion des nouveaux conflits qui émergeaient avec la guerre froide. Et on va dire l'institution qui réglait ce type de conflit ou qui parlait au sujet de ces conflits était surtout le Conseil de sécurité. Et en fait, avec l'entrée des pays africains et des pays décolonisés à l'ONU, on assiste aussi à un basculement de l'importance politique et médiatique en direction du Conseil de sécurité vers en fait l'Assemblée générale, qui devient véritablement l'institution la plus médiatisée, ce qui n'était absolument pas le cas jusqu'en 1960.
Donc vous êtes d'accord avec Souleymane Bachir Diagne?
Tout à fait, et justement il évoquait cette idée de basculement, un basculement qui est d'ailleurs plein d'espoir, comme je l'ai dit, dans la mesure où, comme le secrétaire général de l'ONU, qui a été nommé en 1955, Dagmar Marshall, tous les pays africains espéraient qu'on allait un petit peu laisser de côté les problèmes liés à la guerre froide pour donner, on va dire, véritablement corps aux revendications des pays africains, des pays en voie de décolonisation. Ce basculement était, c'est vrai, a été impulsé par ce nouveau secrétaire général, parce que jusqu'en 1955, l'ONU est quand même très soumise aux États-Unis, ce qui était d'ailleurs un souhait et une volonté des institutions, enfin du gouvernement américain. Et c'est vrai que la personnalité de Dagmar Marshall va favoriser ces entrées, ce dynamisme et on va dire les liens très forts qu'il va pouvoir y avoir entre le secrétaire général et les nouveaux leaders africains en devenir.
Alors l'ONU, c'est un théâtre, hein. C'est aussi cette tribune où l'on vient peut-être faire son show. En tout cas, on doit faire preuve d'éloquence. Comment les leaders africains se sont-ils préparés? Parce qu'enfin, ils arrivent quand même de très très loin, dans des pays où l'accès à l'éducation était très compliqué, où il y a des toutes petites élites, où les quelques-uns qui forment l'élite sont ceux quasiment qu'on retrouve dans les instances de ces jeunes pouvoirs. Comment ils se préparent?
Alors, il se prépare de façon très intelligente, dans le sens où, en fait, on est dans un moment d'accélération de l'histoire. Eux-mêmes sont dans un moment, généralement, d'accélération de leur vie politique. Et donc, ils vont prendre conseil auprès, notamment, des partis communistes en Europe, qui vont les aider à comprendre le fonctionnement de l'ONU grâce à des brochures qui leur permettront de comprendre les enjeux de pouvoir entre le Conseil de tutelle, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité. Ils ont très vite compris qu'il fallait s'adresser à la 4e commission de l'Assemblée générale qui était en charge des questions coloniales et des questions de tutelle. Et ces brochures vont être demandées. J'ai pu croiser beaucoup d'archives ou de lettres de leaders qui demandent justement des explications sur comment fonctionne l'ONU. Ils vont aussi être beaucoup aidés par la Ligue internationale des droits de l'homme, bien sûr, qui va leur donner des informations. Et aussi l'American Committee of Africa, qui va aux États-Unis véritablement leur offrir une petite formation accélérée sur comment est-ce qu'il faut diplomatiquement parfois comprendre les enjeux en off de l'ONU.
Vous allez pouvoir juger, mesdames, messieurs, si justement ces jeunes leaders africains ont bien retenu la leçon. Je vous propose de les écouter grâce à ce montage, extrait de Radio ONU, un programme de 1960 intitulé « Les voix nouvelles ».
Pour l'Afrique, ce fut une journée historique, le 20 septembre 1960.
With the permission of the Assembly, I now propose to put before it.
Je me propose maintenant de placer devant l'Assemblée générale, et je le fais avec plaisir, le point de notre ordre du jour intitulé « Admission de nouveaux membres des Nations Unies ». L'admission de nouveaux membres est toujours un événement important aux Nations Unies, mais particulièrement ce 20 septembre. Il ne s'agit pas cette fois d'un ou de deux pays, mais d'une douzaine de nouveaux États indépendants d'Afrique dont la demande d'admission avait été acceptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Devant l'Assemblée générale, le président Bolland fait l'appel des nouveaux candidats.
If there is no objection,
sauf objection, je déclare la République du Cameroun admise aux Nations Unies. La République du Cameroun, installée solennellement et par acclamation, est représentée par son ministre des Affaires étrangères, M. Charles Okala.
La République du Cameroun affirme solennellement qu'elle croit à la charte. Elle proclame solennellement sa volonté d'adhérer à ses principes et de se conformer à ses obligations.
Le Premier ministre, M. Sylvanus Olympio, prend la parole. M. Sylvanus Olympio, de la République du Togo.
L'Afrique, plus que quiconque, a besoin de la paix, car cette paix est la condition nécessaire à sa propre édification, à la consolidation des libertés acquises et à l'amélioration des conditions d'existence de ses habitants.
If I hear no objection, I propose to declare the Malagasy Republic duly admitted to membership.
La République malgache est ainsi officiellement installée et son ambassadeur, M. Louis Rakoto Malala, monte à la tribune.
La nation malgache était prise de paix. Elle vous apportera tout son appui pour poursuivre l'idéal de paix qui est, je le proclame hautement, la principale raison de notre présence ici.
Candidat suivant, la République de Somalie. Au nom de la République de Somalie, Haji Farah Ali Omar.
From this moment,
à partir d'aujourd'hui, mon pays dont le drapeau arbore, et ce n'est pas un simple hasard, les mêmes couleurs que celles du drapeau des Nations Unies, comme plusieurs autres pays de la communauté française, la Haute-Volta exprime sa gratitude à la France. Le chef de la délégation, M. Bakary Traor.
Je me fais ici un très agréable devoir de rendre un solennel hommage à ses dirigeants et ses peuples, au tout premier rang desquels s'inscrivent le nom du général de Gaulle et le nom de la France.
C'est M. Mamadou Koulibaly qui parle au nom de la Côte d'Ivoire.
Le gouvernement de mon pays, par ma voix, affirme hautement ici son désir ardent d'apporter sa pierre à l'œuvre d'édification d'une communauté internationale soucieuse de consolider, de par le monde, le désir universel de la paix.
La République centrafricaine est le 13e et dernier nouvel État indépendant d'Afrique à avoir été admis aux Nations Unies le 20 septembre 1960. L'Assemblée a remis à plus tard de prendre une décision sur la demande d'admission qui lui était parvenue de la Fédération du Mali, qui n'a vécu qu'un instant. Mais une semaine plus tard, elle admettait séparément les deux États qui composaient l'ancienne fédération. Le premier discours de la République du Mali, prononcé par M. Mamadou Ave, s'est quelque peu départi du ton général que l'on trouvait dans les autres interventions.
Nous affirmons ici que la vague d'indépendance qui déferle sur l'Afrique est irrésistible. Il serait dangereux pour la paix du monde si les anciennes métropoles qui ont régné sur l'Afrique conservaient le secret espoir d'un droit de préemption sur nos jeunes États en fomentant des complots contre leur souveraineté. Le grand espoir de l'humanité, c'est qu'à cette tribune disparaissent tous les complexes entre grands et petits, pour que notre bonne volonté soit à la mesure de notre ambition commune de bâtir un monde de paix et de liberté.
D'autres pays ont exalté ce désir de politique d'indépendance. Le délégué du Niger, M. Noma Kaka.
J'adresse, au nom de ma délégation, un appel pressant aux grandes puissances qui se partagent le monde en influence. par égard aux souffrances des hommes, privés de leurs droits élémentaires et maintenus dans l'asservissement, par égard au dénouement de ceux qui viennent de faire surface et dont les premiers pas sont encore chancelants, nous vous demandons de nous préserver, au moins pendant quelques temps, de vos querelles de guerre froide.
Une autre voix s'est fait entendre à l'Assemblée générale, celle de l'abbé Fulbert Youlou, président de la République du Congo, capitale Brazzaville, qui a cité la fameuse doctrine de Monroe en remplaçant le mot « Amérique » par le mot « Afrique ».
Le continent africain étant donné la liberté et l'indépendance qu'il a obtenue, ne doit plus être considéré désormais comme une terre de colonisation par quelque puissance que ce soit. Désormais, l'Afrique appartient à elle-même et nous nous opposerons à toute tentative de porter atteinte à son indépendance et à sa liberté. Gardez, si tel est votre plaisir, votre système de gouvernement, mais n'essayez pas de le propager chez nous. Laissez-nous libres de remplir notre destinée comme nous vous abandonnons volontiers à vos complications, à vos tyrannies et à vos guerres.
Et un Premier ministre, M. Mamadou Dia du Sénégal.
Ce sera l'un de nos devoirs les plus sacrés d'obtenir que tous nos frères nous rejoignent dans cette assemblée et que la présence africaine au monde s'accomplisse pleinement par la voie d'une Afrique totalement libérée et responsable de son destin.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Les voix nouvelles des leaders africains à l'ONU. Nous sommes le 20 septembre 1960. Des délégations africaines émancipées du joug colonial, en tout cas c'est ce qu'elles affirment, tandis que les Noirs américains sont eux-mêmes en pleine ségrégation. Donc Mila Tourajlik, c'est grâce à vous que l'on entend ces nouvelles voix aujourd'hui dans la marche du monde. Est-ce que à l'époque il y a une rencontre entre tous ces leaders noirs africains et les Américains, les Afro-Américains qui se battent pour leurs droits civiques?
Oui, effectivement, on a même dans les archives une interview qui est donnée par le président du Togo à ce propos, qui dit que voilà, pendant son séjour à New York, il a pris contact avec la communauté afro-américaine et effectivement que ça fait un énorme effet pour eux de voir les dirigeants des pays indépendants africains venir à New York en tant que chef d'État et participer à ce niveau dans le débat politique. Du coup, effectivement, mais ce qui est aussi intéressant, qu'on peut aussi voir ce genre de solidarité politique, si vous voulez, dans l'arrivée de Fidel Castro à New York, parce que Fidel Castro, il a quitté l'hôtel de luxe, si vous voulez, à Manhattan, où il était hébergé, pour s'installer dans l'hôtel Teresa à Harlem. Et ça, c'était vu vraiment comme un geste envers la communauté afro-américaine. Du coup, il a même donné un discours du balcon de l'hôtel à Harlem, qui était très médiatisé à l'époque, comme un geste, en fait.
Karine Ramondi, puisqu'on parle de Castro, alors effectivement, dans le projet documentaire de Mila Tourajlik, il y a cette scène où Castro va dire quelques mots en anglais. Bon, il n'est pas très à l'aise. Hein, en anglais, il a l'air super stressé. Ce n'est peut-être pas la seule raison non plus, Karine Ramondi, parce qu'il y a quand même cette pression à l'égard de cette jeune nation. À l'époque, la grande accusation, c'est d'être taxé de communisme.
Oui, quand Castro arrive aux États-Unis, le siège de l'ONU est aux États-Unis. Quelque part, il est très courageux, dans le sens où il vient sur le sol américain, alors qu'il est, on va dire, la personne la plus menacée directement par des actions militaires en train de se préparer contre lui pour le renverser. Et puis aussi ce qu'on appelle les covert actions, c'est-à-dire les actions qui sont préparées par la CIA afin de pouvoir se débarrasser de Castro. Il y a déjà eu une ou deux tentatives d'assassinat sur Castro quand il arrive aux États-Unis en 1960.
Alors ça nous amène à nous poser la question des absents, au fond, Karine Ramondi, parce que ces hommes qui s'expriment pour la première fois en tant que délégués de leur propre nation à la tribune de l'ONU en 1960, ne sont pas tous les leaders indépendantistes qui parfois même les armes à la main se sont battus pour l'émancipation de leur pays. Donc là, il faut les décrypter, ces images.
Oui, de même que toutes ces voix nouvelles ne nous disent pas la même chose. Il faudrait les décrypter une à une. Il y a des discours, il y a des doubles discours, il y a des discours francophiles, il y a des discours qui sont en apparence anti-franco-francophiles, ou qui sont francophobes, mais qui ne le sont pas dans la réalité. C'est le discours notamment de Fulbert Youlou, qui a tout de même un gouvernement autour de lui qui est totalement, on va dire, noyauté par les services secrets français et qui l'aide à maintenir sa position à la tête de l'État. Pourtant, là, dans ce discours, on a vraiment l'impression qu'il est quasiment le chef de file de la lutte internationale africaine. Et en effet, il y a des grands absents dans ces voix.
Il faut les citer.
Je pense d'abord à tous ces leaders camerounais qui ont utilisé l'ONU comme une tribune jusqu'en 1955, date de l'interdiction notamment de l'UPC, de l'Union des Populations du Cameroun, qui ne sont pas là. Alors que celui qui est là, qui est donc Aïdjo, a quand même participé de façon tout à fait molle à la, on va dire, voire périphérique, à l'indépendance du Cameroun. Il y a un grand absent qui est Patrice Lumumba. Patrice Lumumba n'est pas là le 20 septembre 1960. Il est le premier ministre élu démocratiquement au Congo depuis de juin 1960.
Plus pour très longtemps.
Plus pour très longtemps, puisque au moment où la délégation du Congo-Kinshasa est présente à l'ONU, sa révocation a été faite par le président Kazavubu, qui vient à l'ONU, accompagné de Justin Bomboko, qui est une délégation qui va être accréditée par l'ONU, alors que la délégation prévue n'était pas du tout celle-là, c'était celle de Patrice Lumumba. Et Patrice Lumumba, de Kinshasa, ou de ce qu'on appelle à l'époque Léopoldville, va évidemment prendre cela comme un lâchage international terrible, étant donné qu'il avait placé de très grands espoirs en l'ONU, qui avait commencé tout de même à s'amenuire depuis le début de juillet 1960. C'est un grand absent, c'est un absent qui sera d'ailleurs assassiné quelques mois plus tard, sans que l'ONU n'ait pu véritablement ou voulu intervenir. Je précise aussi que peut-être Sylvanus Olympio, qui était peut-être le leader qui a parlé pour la première fois à l'ONU, à la tribune en 1947,
leader togolais,
qui s'est rapproché, des communautés afro-américaines. Tous les médias en 1947 aux États-Unis s'attendaient à le voir débarquer en peau de bête pour parler à la tribune de l'ONU. Et il arrive en costume trois pièces, il parle l'anglais, le français, il est parfaitement au fait et un grand orateur. Et lui aussi finira assassiné en 1963.
Alors néanmoins, Karine Ramondi, et comme l'a rappelé Souleymane Bachir Diagne, est-ce qu'à ce moment-là, l'enjeu pour ces nouvelles voix africaines, ce n'est pas au fond de créer un bloc, un autre bloc qui pourrait être un bloc panafricain ?
Je crois que l'enjeu premier, c'est de ne pas être aligné sur la bipolarisation, c'est-à-dire de dire, nous, en fait, laissez-nous créer notre système à nous. Et quand on veut qu'un leader soit inquiété, il suffit de dire qu'il est communiste quand on est dans le camp atlantiste, et l'inverse, inversement. Et du coup, il y a un véritable souhait, d'ailleurs c'est évoqué dans ces voix nouvelles, je crois, par le représentant du Mali, de dire, mais nous ne voulons plus de ce système bipolaire. Laissez-nous créer quelque chose.
Enfin, il dit nous, quand même.
Oui, bien sûr. Et quand il dit ce nous, il fait évidemment référence à déjà un projet qui a avorté en 1960, qui est la Fédération du Mali. Puisqu'à l'origine, la Fédération du Mali devait rassembler quatre pays, la Haute-Volta, le Dahomey, le Sénégal et le Mali. Et quand, en l'espace de 2 ans, ce projet a été, on va dire, pulvérisé par des forces endogènes et exogènes, et que cette fédération du Mali n'a pas pu voir le jour. Il existe également d'autres grands projets panafricains, et le panafricanisme a porté tout de même, on va dire, les leaders dans les années 60. C'est un mouvement, c'est un idéal, ce sont des rencontres, ce sont des entraides, pas toujours d'une grande efficacité, malheureusement, face aux coups de boutoir des deux grandes puissances. Mais il y a eu d'autres projets de fédération, d'entraide, parce que ces leaders le disent. À un moment, on évoque les nations chancelantes. Oui, ces nations font véritablement des petits pas là pour l'indépendance et certains
des grands pas pour l'humanité. Vous pouvez dire
exactement. Et il y a véritablement cette idée que ça sera difficile d'être seul. Ça sera difficile d'être une nation seule. Donc il y a des projets d'union, comme on l'a vu. Il y a des projets union. Congo, Ghana, Guinée, qui avorte aussi avec la disparition de Lumumba. Et il y a véritablement une peur de la balkanisation. En Afrique centrale, il y a un projet qui est porté par Boganda, de la Fédération d'Afrique latine. Et il y a vraiment une conscience, une vision qu'il faudra qu'il y ait une union des pays africains, de certains pays africains, pour pouvoir, on va dire, construire une indépendance pérenne. Malheureusement, et c'est là où peut-être il faudrait en venir rapidement, c'est que ces projets vont être contrecarrés par des leaders africains, et notamment Oufouette Boigny, qui va jouer un rôle particulièrement important, comme l'Albé Fulbert Youlou aussi en Afrique centrale, et qui vont contribuer au contraire à balkaniser l'Afrique, à rendre les nations indépendantes, certes, seules, souvent, avec toutes les difficultés inhérentes justement à ce moment de transition compliqué.
Et en bonne intelligence avec la France. Merci, merci à vous deux. Karine Ramondi, je rappelle votre livre « Leader assassiné », c'est aux éditions de l'Harmattan, ainsi que le livre « Controverse, dialogue sur l'islam » de Souleymane Bachir Diagne, c'est aux éditions Stock. Et nous attendons votre film d'archives Mila Tourajli consacré à l'entrée des nations africaines à l'ONU et aux images, bien sûr, de ce caméraman de Tito que vous avez connu, avec lequel vous avez travaillé pendant 3 ans et qui est aujourd'hui disparu. Alors, ça sera pour quand ?
On espère dans le printemps. Donc, on travaille là dans le montage. A priori, je serai heureuse de l'annoncer dès qu'on a fini le film.
Et je serai heureuse de vous recevoir dans la marche du monde. Merci à vous trois, donc. 3 invités de cet nouvel épisode de La Marche du Monde enregistré ici à Blois avec vous, public du Café Fluxus. Merci à vous, merci beaucoup. S'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, enregistré au 23e rendez-vous de l'histoire de Blois par Denis Cambiagi et Boris Vichit. Une émission signée Valérie Nivelon et réalisée par Sophie Jeannin, à réécouter en podcast en vous abonnant à La Marche du Monde via votre téléphone. Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux, écrivez-nous. Cette émission, encore et toujours, c'est la vôtre. Table ronde, table ronde.